Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française de mode durable et éco-responsable à porter avant, pendant et après la grossesse. Je suis aussi maman de deux enfants et j'ai créé la marque suite à ma première grossesse avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements et aussi par ce podcast, pour contribuer à libérer la parole sur ces sujets si intenses que sont la grossesse, l'accouchement, le postpartum et la vie de maman. Vous écoutez la série 9 mois, au cours de laquelle je suis une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Chaque mois, elle me raconte ce qu'il se passe, comment elle se sent et toutes les étapes qu'elle traverse du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Pour cette première édition, je suis Delphine. Delphine a 42 ans, elle est enceinte de son premier enfant et elle a accepté que je la suive pendant cette grossesse particulière, en 2020, entre deux confinements. Dans ce deuxième épisode, Delphine nous raconte son premier trimestre de grossesse. On parle des examens qu'elle a faits et notamment du DPNI, dépistage prénatal non invasif, qui est un test de dépistage génétique non invasif, donc, c'est-à-dire par une prise de sang, de trois types de trisomie, 21, 13 et 18. Delphine nous raconte aussi comment elle a ressenti et vécu cette période, à la fois si réjouissante du premier trimestre et aussi si fragile. Un petit rappel avant de commencer. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre du format où on suit Delphine pendant ta grossesse.
Salut. Bonjour Delphine. Marie.
Donc Delphine, donc pour celles qui n'avaient pas écouté l'épisode précédent, en fait, l'objectif de ce format c'est de te suivre pendant toute ta grossesse. Donc là, t'es à la fin de ton premier trimestre de grossesse. Lors du précédent épisode, tu nous as un peu parlé des péripéties ou en tout cas du parcours.
Un peu chaotique le début, ouais.
pour arriver vers cette grossesse. Et donc voilà, donc maintenant on va parler de ton premier trimestre, que tu nous racontes un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc pour repartir là où on était la dernière fois, donc on est au mois d'avril, en plein confinement, et là tu découvres que t'es enceinte, voilà, via test de grossesse, et ensuite à distance, donc ton médecin te prescrit une prise de sang qui confirme effectivement.
Exactement.
La grossesse. Donc on te reprend à ce moment-là. Donc, déjà, comment tu te sens en fait, enfin, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu te dis les premiers jours où tu découvres ça?
Bah, déjà, c'est assez bizarre parce que en fait, j'y crois pas. En fait, ouais. Je me dis que c'est tellement, enfin, on s'était tellement mis dans la tête que je sais pas, que avec tout ce que les médecins qu'on avait vus, qu'on n'allait pas y arriver, que du coup, c'est vrai que c'était assez. Et puis là, pour le coup, ça a marché sans rien. Enfin, je veux dire, sans stimulation, sans rien du tout. Je pense l'effet du repos et à mon avis une remise en question, enfin prise de recul. Donc moi, bon, après forcément au taquet. Mon compagnon un peu plus sur la réserve parce que pour le coup, il avait quand même beaucoup plus peur des fausses couches, ouais. De la fausse couche qui est quand même où le taux quand même est assez élevé en fait quand on a plus de 40 ans.
Oui, tu dis le risque.
Ouais, le risque de fausse couche, pardon. Donc voilà, mais moi au taquet. Ouais. Donc voilà, donc moi j'étais plutôt contente et puis après c'est marrant, mais moi. Pour moi, ce qui était le plus dur, en fait, c'était juste de tomber enceinte. J'ai jamais eu aucun doute sur la fausse couche. Mais c'était surtout, en fait, moi, pour moi, la grosse difficulté, c'était de tomber enceinte. Je m'étais dit, une fois que je suis tombée enceinte, après, tout va rouler.
Ouais, dans ta tête, c'était confiante.
Exactement, j'étais assez confiante là-dessus. Mon compagnon, un peu moins, il était vraiment, lui, beaucoup plus sur la réserve. Il arrêtait pas de lire les risques de fausse couche après 40 ans. Alors après, la quatrième semaine, après, la huitième semaine, donc le truc complètement anxiogène. Mais bon, voilà, après, c'était
pas... Pas du tout, quoi.
Moi, pas du tout. Après, c'était pas mal parce que ça me permettait aussi de, voilà, de, comment dire, de prendre du recul et d'avoir un peu les pieds sur terre et me dire, bon, allez, c'est vrai que tout n'est pas gagné. Mais ouais, moi, j'étais hyper sereine.
Et du coup, tu fais ta prise de sang, donc qui confirme les bêta-HCG. Donc, on est encore une fois en plein confinement. Quand est-ce que tu vois ton gynéco, en fait, après
10 jours après.
10 jours après, il te reçoit.
Ouais, il me reçoit pendant le confinement, donc avec des mesures assez particulières, parce que donc, il fallait qu'on soit que deux patientes dans la salle d'attente. Mais en tout cas, il consultait uniquement pour certains. Bah, par exemple, c'était pour les grossesses, il consultait. Il consultait pas, par exemple, pour un examen gynécologique classique, en fait.
Oui, tout à fait.
Ils avaient fait quand même un choix de, voilà, de prendre certaines consultations en priorité et pas d'autres. Donc voilà, donc là moi je l'ai vu du coup 10 jours après avec mon compagnon. Mm-hmm. Donc là on a fait une première écho. C'était assez. Donc là, bon, c'est un petit haricot. Hein.
Là, t'étais à combien du coup ?
Là, j'étais à un mois, ouais, 4 semaines. Donc là, bon, c'est pas grand chose, mais en tout cas, il a vu que c'était bien une grossesse intra-utérine et pas extra-utérine, parce que c'est quand même des choses qui vérifient, que c'est pas un œuf clair. Donc c'est vrai qu'aussi, cette première consultation n'est pas non plus anodine, parce que ça peut, voilà, ça peut être une grossesse extra-utérine. Voilà. Donc du coup, tout allait bien. Donc ça, c'était plutôt positif. On était hyper contents. Je l'ai quand même remercier parce qu'en fait au final je me dis que c'est le seul quand même depuis le début qui a cru.
Ouais.
Voilà, sans vraiment mettre une grosse pression par rapport à l'âge et sans parler de PMA tout de suite.
Ouais.
Et voilà, et honnêtement j'ai été quand même assez reconnaissante, voilà, du parcours et du suivi, même si un peu parfois il est un peu à la well again, mais surtout pour la partie stimulation, je pense que lui son kiff en fait c'est de suivre les femmes enceintes. Pour le coup il a pas du tout le même suivi je trouve. Ouais. Mais voilà, il est vachement très très bien. Et là, il m'a juste prescrit des œstrogènes que d'accord. J'ai dû prendre pendant 2 semaines pour favoriser l'anidation, okay. Pour bien être sûr en fait que l'œuf s'implante. Mmh. Exactement. Et là, il m'a prescrit tout un bilan sanguin, qui est, bon, je pense, la démarche classique quand on tombe enceinte.
Tout à fait.
Voilà, avec tout ce qui est toutes les sérologies, le groupe sanguin, si on est immunisé contre la toxo, enfin voilà, tout ça. J'ai eu les résultats. Donc, j'étais pas immunisée contre la toxo, la cata.
Oui, parce qu'il faut préciser que t'as la phobie des prises de sang.
Voilà, alors.
Que je comprends aussi, parce que je l'ai aussi, j'ai horreur de ça.
Voilà, mais, ouais. Hormis le fait d'être complètement hypochondriaque, voilà, je suis complètement phobique des aiguilles et des prises de sang. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, tous les mois, voilà. Et en plus, la double peine, c'est que je suis donc de groupe sanguin O négatif.
Okay.
Et donc, quand on a. Donc, c'est à peu près 6 ou 7% de la population mondiale. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est donneur universel. Bon. Voilà. Je peux recevoir par contre que des gens qui sont O négatifs, mais en fait il y a quelque chose, c'est que donc, quand une femme est rhésus négative, elle a des examens, donc pareil une prise de sang, enfin, qui se fait en même temps que la toxo, mais un dosage d'un marqueur qui s'appelle le RAI ou le RAI, je ne sais pas voilà, exactement comment ça s'appelle, pour regarder en fait si on ne... parce que donc mon compagnon est rhésus positif, qui d'accord. Est d'ailleurs la majorité de la population.
Oui, tout à fait.
Et donc, pour regarder donc, si je ne fais pas des anticorps contre le fœtus. Okay. Parce qu'en fait, il y a énormément... Donc, à l'époque, bon, maintenant, ça se détecte. Mais en fait, il y a énormément de risques de fausse couche, en fait, quand on est rhésus négatif. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps crée des anticorps contre le fœtus et l'éjecte. Comme un peu, il le reconnaît comme un corps étranger.
C'est fou, ça, je ne savais pas du tout.
Voilà.
À cause du rhésus négatif.
À cause du rhésus, enfin, en fait, c'est une incompatibilité de rhésus.
Mais en fait, à part surveiller, enfin, il surveille quoi, du coup ?
En fait, il surveille donc ce marqueur qui s'appelle RAI.
Ah, oui, d'accord. Oui,
si je fais des anticorps, exactement. Si je développe des anticorps, en fait, tous les mois.
Et, par exemple, ils t'ont déjà expliqué, si jamais tu développes ces anticorps, ce qui se passe, non ? Je ne sais pas.
Alors, si je les développe, en fait, ils font des injections d'un produit qui s'appelle Rofilac.
D'accord.
Qui, en fait, qui m'empêchera en fait de développer ces anticorps contre le bébé.
Ouais, donc bon, donc deux trucs à suivre.
Voilà, deux trucs à suivre et puis après voilà le bilan sanguin classique.
Ouais. Voilà. Sinon tout allait bien quoi.
Sinon tout allait bien. Ouais, tout allait bien.
Et niveau symptômes, t'étais comment ?
Alors niveau symptômes, honnêtement, j'ai eu quand même, je pense, pas mal de chance parce que j'ai dû avoir peut-être 2 semaines de nausées, donc pas de vomissement, rien, mais ouais peut-être 2 semaines de nausées. J'ai vraiment eu une chance honnêtement là-dessus parce que je suis ouais, enfin même là au premier trimestre, je suis quand même en forme. Enfin, j'ai pas du tout. Moi, j'ai des copines, elles ont tellement galéré entre les vomissements, les nausées, perte d'appétit. Moi, ça a duré 2 semaines.
Ok.
Donc plutôt cool.
Plutôt cool.
Plutôt un premier début de grossesse plutôt tranquille et assez sereine.
Et du coup, tu l'as dit assez rapidement. Enfin.
Ouais. Alors le problème, c'est que du coup, dans mon couple, on était complètement opposés. Donc c'est-à-dire que moi, je suis au taquet et j'ai quand même pas mal de mal à garder les choses. Donc moi je l'ai dit assez rapidement à mes parents, à mon frère, et on l'a dit aussi assez rapidement aux parents de mon compagnon. Et après en fait mon compagnon a souhaité qu'on reste quand même qu'on attende au moins
la fin du premier trimestre.
Exactement, pour le dire en fait à nos amis, enfin aux proches. Exactement.
Bon, en plus ça a tombé pendant le confinement, donc
Oui, voilà, c'est ça. Donc non non c'était pas bah en fait c'était assez bizarre parce que justement comme pendant le confinement au bout d'un moment on n'a pas grand chose à se dire je me suis dit ah, attends ça va faire une super truc une super nouvelle à raconter et j'aurais plein de trucs à dire bah sauf qu'en fait non j'avais rien à raconter donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on a quand même tous un peu tourné en rond sur les conversations pendant
c'est
le confinement
clair, c'est clair.
Donc donc en fait j'ai couvé.
Ouais.
J'ai couvé pendant tout le confinement, je suis restée allongée, j'ai bossé allongée, donc voilà. Qui d'ailleurs, ouais, enfin, je pense que ça a joué aussi sur
ça
le fait
aidé,
que.
Ouais.
Ouais, ça a aidé, à mon avis, je pense.
Oui, enfin, peut-être effectivement le fait d'être reposée, ça a atténué sans doute quelques symptômes, pas les nausées, mais peut-être d'autres symptômes de fatigue et tout, à ce moment-là, qui étaient peut-être amoindris si, par rapport à une vie. Classique, on va dire.
Ouais, clairement. Je pense que ça a joué.
Ouais.
Bon, après, voilà, je pense que c'est un tout, peut-être pas, on le saura jamais, mais en tout cas, je pense que ça a été bénéfique, donc j'ai couvé, voilà.
C'est bien.
Voilà, c'est très bien.
Et les œstrogènes, du coup, tu les as pris, t'as fini de les prendre ou tu les prends toujours, là ?
Non, en fait, j'ai juste dû les prendre pendant les deux semaines. Oui, c'est ça, deux semaines.
Et alors, donc, au premier trimestre, donc là, on est à la fin du premier trimestre, t'as l'écho, donc, la fameuse écho des trois mois, comme on l'appelle, donc celle-là, ouais. Tu l'as faite.
Ouais, alors, j'ai une chance, c'est que moi déjà mon gynécologue me suit déjà tous les mois, donc j'ai une autre.
Oui, lui il fait des échos tous les mois.
Exactement, tous les fins de mois, donc il me fait une écho, donc j'ai une autre écho à deux mois,
ouais.
Où là bon, c'était top parce que du coup là le fœtus est quand même beaucoup mieux développé, donc on voit vraiment les petits bras, exactement
les
trop choux. Donc là j'ai un truc quand même. Ouais, je trouve que c'est quand même, en tout cas en termes d'émotion, c'est assez fort.
Ouais.
Je trouve. Parce que bon, on passe du haricot. Alors, haricot, bon, c'est. Voilà. Mais après, on voit quand même un petit être avec un cœur qui bat et tout. C'est quand même.
Ouais.
Je trouve que c'est autre chose. Donc voilà, j'avais eu quand même une écho au deuxième mois. Et après, c'est ça, début juin, j'ai eu l'écho du premier trimestre, qui est donc là, pour le coup, c'est pas mon gynécologue, mais c'est avec une échographe, voilà, là où je vais, du coup, accoucher.
À la clinique.
À la clinique, mm-hmm. Exactement. Donc là, bah, principalement, ils regardent surtout... Alors moi, j'ai dû le faire seule, parce qu'en fait, c'était encore le plan blanc.
Mm-hmm.
Donc pour le coup, en fait, mon compagnon a pas pu m'accompagner.
D'accord.
Pour cet écho. Bon, là, principalement, classiquement, hein, c'est surtout la clarté nucale qui regarde.
Ouais.
Et puis après, ils font plusieurs mesures, l'os du nez, le fémur, les choses comme ça.
Okay.
Là, tout était nickel.
La clarté nucale aussi.
Okay. Et après, dans la foulée, ils m'ont fait donc une prise de sang pour regarder les marqueurs sériques,
oui.
Qui est donc un marqueur, en fait, pour mesurer le risque de trisomie.
Oui.
Bon, donc j'ai eu les résultats, je crois, je sais plus, une semaine après.
Mm-hmm.
Bon, par mon médecin,
d'accord.
Par mon gynécologue, pas par...
Okay.
Et là, donc, ça a été un peu la douche froide.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai eu un risque assez élevé qui était de 1 sur 110,
ouais.
De trisomie 13, 18 et 21.
Sachant que, effectivement, enfin, le seuil, en tout cas le seuil qu'il considère à risque, il me semble, dans mes souvenirs, c'est 1 sur 250, je crois.
Exactement. Ah. En gros, ouais. Entre 0 et... Alors, au-dessus de 250, il n'y a pas vraiment de problème.
Mmh.
En dessous de 250 jusqu'à 110, là, ils estiment qu'il y a un problème. Donc, ils font faire un test supplémentaire qui s'appelle le DPNI, le dépistage prénatal non invasif.
OK.
Et quand on a un risque de 1 sur 50, ils font directement une amniocentèse.
OK.
Donc, moi, mon médecin m'a... pour le coup, là, il m'a prescrit directement ce test, le DPNI, exactement. Voilà.
Alors, explique-nous ce que c'est. C'est un test sanguin.
C'est un test sanguin qui mm-hmm. mesure, en fait... alors, qui est hyper fiable et qui, apparemment, maintenant, est assez récent.
Mm-hmm.
Enfin, je crois que ça fait à peu près 5 ans. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je dirais des bêtises, mais... Et donc, ce test mesure la probabilité d'avoir un risque de trisomie 13, 18 et 21.
Je crois qu'en fait, d'après mes souvenirs, en fait, ils font un peu le détail de l'ADN, en fait, du bébé.
C'est ça. Et ils font le karyotype.
Voilà, ils font le karyotype.
Exactement.
Voilà, ils détaillent les gènes.
Ouais.
Et carrément, quoi, en prenant ton sang, c'est assez ouf, d'ailleurs.
Ouais.
Et du coup, la précision, elle est de 99%, quoi, par rapport aux marqueurs sériques qui sont quand même fiables, mais quand même pas à 100% du tout. Quoi.
Non.
Ouais.
Après, les marqueurs sériques... en fait, quand on a le premier risque, là, de moi, que j'ai eu 1 sur 110, en fait, je crois que l'âge rentre énormément en compte,
ouais.
en tant que variable.
Mm-hmm.
Et en fait, au-delà de 40, en fait, le risque augmente énormément, quoi.
Ouais.
Et donc, voilà, ils le font maintenant systématiquement. De toute façon, apparemment, au-delà de 40 ans, en fait, ce test est prescrit de manière quasiment obligatoire. Ouais, donc là, ça a été vraiment une période assez difficile parce que, bon, quand même, on se pose quand même les questions de se dire, bah, si jamais ils trouvent quelque chose, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Exactement. Donc là, en fait, on signe un papier où d'ailleurs ils nous disent que en fait, soit on peut avorter en fait si jamais justement ils détectent une trisomie.
Ouais.
Donc voilà. Donc c'est quand même des choses auxquelles on essaye de pas penser parce qu'en fait il y a à peu près 10 à 15 jours d'attente avant d'avoir les résultats, sachant qu'il y a uniquement le médecin qui a prescrit en fait la prise de sang qui est apte à donner les résultats. Donc une attente un peu longue, pas mal de stress, pas mal de réflexions, voilà. Sur après on se rend compte, je me suis quand même rendu compte dans mon entourage qu'il y avait quand même pas mal d'amis à moi qui l'ont fait.
Le DPNI ?
Ouais, qui ont fait le DPNI.
Moi, je l'avais fait.
Ouais, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens. Donc après, d'un côté, je trouvais ça hyper rassurant aujourd'hui que ce genre de test existe.
Clairement. Et d'ailleurs, parce que moi, à l'époque, il n'était pas remboursé par la Sécu. Tu te souviens de ça ou pas ? S'il est remboursé maintenant ou pas ?
Moi, il a été remboursé par rapport à mon risque.
Ah, par rapport à ton risque.
Je pensais que c'était par rapport à l'âge. Et en fait, c'est par rapport à mon risque. Ouais. Comme j'ai eu un sur 110, en fait, il est complètement pris en charge. Parce que je crois que c'est un test qui coûte entre 600 et 700 euros.
Ouais.
Non remboursé.
Moi, c'était 300 euros, je crois. Ah. Ouais. Ouais. Dans mon souvenir. Et j'étais pas dans la zone de risque, mais mon médecin. Comme j'avais 35 ans, mon médecin m'avait complètement découvert ce truc et il m'avait fortement incité à le faire. Ouais.
Après, moi je trouve ça génial parce que je trouve qu'aujourd'hui on a quand même une prise en charge, alors qui parfois peut être un peu trop médicalisée, mais qui est quand même assez rassurante.
Oui, c'est clair.
Et puis voilà. Alors je sais pas, peut-être que ça peut choquer, mais en tout cas c'est vrai que nous on y avait réfléchi, on se disait que si jamais les résultats étaient positifs et qu'ils montraient une trisomie, l'avortement en tout cas était une solution, quelque chose qu'on envisageait. Mais bon. Après, c'est très personnel.
Très personnel.
Hein. Mais c'est vrai que voilà, on réfléchit quand même à un peu à toutes les alternatives pendant ces 10 à 15 jours.
Qui sont un petit peu longues, quoi, j'imagine.
Qui sont un peu longues et du coup qui remettent pareil en question plein de choses en disant mince. Enfin, il y a pas mal de choses qui se chamboulent, je trouve, un peu dans la tête. Et puis on a eu donc le coup de fil de mon médecin qui m'a dit que voilà, tout était négatif et que je pouvais souffler, qu'il n'y avait aucun risque de trisomie. Chez le fœtus. Donc voilà, gros soulagement. Et là, ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai eu une espèce de baby bump d'un coup.
qui est sorti d'un coup.
Qui est sorti en fait juste après ce résultat.
Ouais, génial.
Et je pense qu'en fait, je pense que le corps se relâche.
Ouais.
Et donc voilà, j'ai eu le ventre est sorti là, récemment. Donc c'est assez drôle en fait.
Et au niveau du travail, du coup, tu gères ça comment ? Enfin, tu l'as dit là.
Alors au niveau du travail, je l'ai dit. J'en avais parlé avec mon médecin qui était au courant un peu de mes conditions professionnelles et qui m'avait dit à un moment qu'il fallait que je choisisse ma priorité parce que il m'a dit voilà, aujourd'hui vous avez un certain âge, c'est une grossesse quand même c'est des grossesses, on dit à risque, mais bon, qui sont quand même très suivies.
Oui.
Au-delà de 40 ans, il m'a dit à un moment c'est à vous de choisir. Voilà, je pense que vous avez quand même assez galéré pour avoir cet enfant qui est arrivé comme ça, naturellement. Donc je pense qu'il va falloir à un moment prendre du recul par rapport à votre travail. Et en fait. Et en fait, il avait complètement raison. Et donc, j'ai demandé, en fait, à ne plus faire de déplacement sur Paris et à faire que du télétravail full-time jusqu'à la fin de la grossesse.
Bon, en même temps, on est fin juin, on vient juste d'être déconfiné. Bon, ça s'entend.
C'est complètement cohérent par rapport à la situation,
tout à fait, tout à fait.
Mais bon, voilà, c'est vrai que je pense que... Et le fait qu'ils me le disent, ça m'a aussi permis un moment de me dire... Parce que je pense que je sous-estimais un peu ma grossesse comme j'étais assez... Enfin, je suis assez en forme. Du coup, je me suis dit, oh, bah, c'est pas grave, un petit aller-retour à Paris. Et en fait, il m'a quand même fait prendre conscience, Et puis à un moment, je pense que les priorités changent, quoi.
Donc tu sais qu'en fait, jusqu'à la fin... En fait, ta date... D'ailleurs, oui, j'ai oublié de te poser la question. Ta date d'accouchement prévue, c'est quand là ?
Alors, le terme est prévu pour le 23 décembre.
Voilà.
Donc, petit Jésus, enfin, quasiment.
C'est clair.
Mais quasiment pour Noël.
Donc tu sais que même au mois de septembre et tout, tu resteras... Enfin, tu vas arrêter les allers-retours, quoi.
Ouais, en tout cas, j'en ai déjà parlé, du coup, à mon travail. Et j'ai demandé quand même aussi une attestation de mon médecin qui confirme qu'aujourd'hui, au vu de ma grossesse, il était préférable que je fasse du télétravail et que j'ai pas de déplacement. Ça s'est très bien passé. Enfin voilà, de toute façon,
c'est comme ça. Oui, puis bon, en plus, j'ai envie de dire, vu la situation actuelle.
Mais voilà, exactement, avec le Covid, on sait très bien que c'est pas préférable. Et d'ailleurs, pendant cette période, c'est vrai que les femmes enceintes sont quand même des personnes à risque. Donc,
tout à fait.
Donc voilà, donc clairement, c'est plutôt cohérent par rapport à la situation. Donc voilà.
Et d'ailleurs, tu vis comment ce premier trimestre, là, en plein Covid? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Enfin, t'y penses ou pas du tout, là?
Pas tant que ça. C'est assez bizarre. Je suis pas non plus... Moi qui suis, alors, assez étonnamment, qui suis quand même assez hypochondriaque, c'est assez bizarre. Je suis pas... Non, j'ai pas une angoisse même de l'avoir ou de... Parce que même, en plus, quand on va faire les... Donc là, quand du coup, comme je suis pas immunisée contre la toxoplasmose et que j'ai donc mon rhésus à faire, donc tous les mois, je vais au laboratoire. Donc, en fait, il y a des gens qui viennent beaucoup, en fait, pour se faire...
dépister.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que j'ai pas du tout cette angoisse. C'est assez... je sais pas.
Bon, tant mieux, hein.
Non, ouais. Tant mieux. Ouais, j'ai pas du tout... Je pense que je suis tellement sereine. Je suis tellement, je pense, épanouie d'être... Enfin, c'est assez bizarre, en fait. Ouais. Tout le reste...
Te passe au-dessus.
Exactement. Donc, voilà.
Donc là, tu t'apprêtes à vivre un bel été.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Tu vas profiter à la fois du soleil, du beau temps.
Ouais, et puis je pense... Ouais, c'est exactement ça. Et puis, en plus, on me dit que le deuxième trimestre, c'est quand même le trimestre le plus cool.
Ouais, c'est clair.
En termes de forme. Bon, après, pour le coup, j'ai eu quand même des petits coups de barre. Voilà, là. Oui, d'ailleurs... C'est vrai que j'ai eu des petits blackouts, genre à 16h de l'après-midi. Mais je pense que ça va un peu passer. Tout le monde dit que ça passe après avec le deuxième trimestre. Donc ça va être top pour les vacances.
Bah écoute, merci. Bon, on se retrouve pour ton prochain mois. Voilà, faut que tu nous ça racontes marche. Un peu ton suivi.
Ça marche, avec plaisir.
Merci Delphine.
Merci Marie.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast et me laisser un commentaire et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt !